RCF.
Bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut catholique de Paris pour cette troisième soirée du cycle « Quand la théologie rencontre le sport ». Une soirée organisée avec Holy Games, la proposition de l'Église catholique de France pour les Jeux Olympiques 2024. Pendant plus d'un mois, du 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre, les Jeux Paralympiques, là, on va tous vibrer au rythme du sport à Paris, en France, dans le monde. On va vivre les plus grandes émotions du sport dans la victoire ou dans la défaite. On va faire corps avec nos athlètes et les équipes qui porteront fièrement nos couleurs. Une liesse populaire, un moment d'unité nationale et de communion à travers le sport. Alors ça va nous rappeler les grands moments de la Coupe du Monde 98, pour ceux qui s'en souviennent. On sent déjà monter la ferveur un peu partout, c'est génial. Alors, quel est le sens de tout cela? Qu'est-ce que cette flamme olympique nous dit de notre besoin de communion, de partager une destinée commune? Qu'est-ce que nos passions sportives, leurs vertus et leurs dérives disent de notre société? Quelle est la place de la fragilité dans le corps social que représente une équipe ou notre société quand elle exulte pour une victoire ou désespère d'une défaite? On va poser ces questions à nos invités ce soir. Je vais vous les présenter dans un instant, mais pour commencer, je laisse un mot d'introduction à Mgr Philippe Marcet, qui est l'évêque auxiliaire de Paris, en charge du suivi pour l'Église de ces Jeux Olympiques 2024.
De cet événement magnifique qui nous fait allier, comme vous l'avez dit, Étienne, des mots qu'on n'a pas l'habitude de mettre en alliance, comme la théologie et le sport. Comme il y a quelques années, un pape a lié la théologie et le corps. Et en plus, dans cette alliance entre le sport et la théologie, nous, ce soir, allions un autre terme qui est celui de communion, qui ressemble à la fois, comme vous l'avez dit, à quelque chose de proprement horizontal et nécessaire pour la vitalité d'un corps social, et quelque chose qui est profondément chrétien, dans le sens vertical du terme. Et donc, ce soir, je suis heureux d'introduire donc cette troisième thématique, qui n'est que la troisième de quatre, la dernière étant je vous la présenterai à la fin de ce colloque. Merci à vous trois, à vous quatre, d'être là pour nous aider à réfléchir à ce qui n'est pas si évident de mettre en communion.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, nos invités, je vais vous les présenter. Alessandra Maigre, qui est donc de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg, qui est théologienne du sport et, attention, hockeyeuse en Suisse. Nous sommes également avec Anne-Solène Kerdraon. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes sœur auxiliatrice, directrice du département de théologie morale et spirituelle au Theologicum de l'Institut catholique de Paris et vous êtes théologienne moraliste. Puis avec nous, un jeune étudiant et sportif, Georges Harding. Bonsoir et merci d'être là. Étudiant au Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Membre de l'équipe de rugby de l'ICP. Alors vous l'entendrez, il a un accent absolument charmant. Il est britannique et donc il a connu justement le sport dans un milieu universitaire comme on en connaît finalement assez peu en France. Il pourra en témoigner pendant cette soirée. Alors pour commencer, moi je voudrais qu'on voit vraiment la partie positive quoi de cette soirée et de ce que représente un événement comme les Jeux Olympiques et cette dimension communautaire, cette unité qui peut se créer à travers le sport et le sport comme un modèle de communion quoi, pour la société. Pour commencer, je voudrais vous demander de nous raconter, de témoigner d'un événement qui vous a marqué où justement vous avez senti à quel point le sport pouvait fédérer un quartier, une ville, un pays peut-être aussi, tellement justement il permettait cette communion. On commence avec vous si vous voulez, Alessandra.
Bonsoir à toutes et tous. Avant tout, je remercie l'ICP et Holy Games de l'invitation. Merci beaucoup de m'accueillir ici ce soir. Et alors, j'aimerais commencer par justement un petit témoignage en lien avec sport et communion. Comme l'a dit Étienne, donc je suis hockeyeuse. mais je suis également supportrice de hockey sur glace. Et puis, quand j'ai vu le titre de cette soirée, ça m'a rappelé un événement auquel j'ai eu la chance de participer il y a 3 ans environ, et qui en fait est relié à l'équipe de hockey sur glace dont je suis fan, et qui est une équipe de la Suisse italienne, d'un petit village de montagne. Donc il faut vous représenter une vallée alpine avec un village, pas beaucoup d'habitants, une équipe de hockey dans la division supérieure du championnat suisse. Et puis, en fait, cette équipe de hockey, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus que qu'une équipe sportive. Ça draine vraiment les foules autour de l'aspect social, l'aspect économique. Et enfin, l'événement que je voulais vous raconter ce soir a eu lieu dans le cadre de la destruction de l'ancienne patinoire, la patinoire mythique de cette équipe de hockey qui a joué dans cette patinoire pendant des années, pendant une septantaine d'années, qui a vécu beaucoup d'événements, beaucoup de défaites, beaucoup de victoires, donc beaucoup, beaucoup d'émotions pour les supporters, vraiment une maison, presque une maison commune pour cette vallée, si j'ose le terme. Et ce jour-là, en septembre 2021, donc nous étions tous réunis, les supporters, pour faire un adieu à cette patinoire qui allait être détruite, car on en construisait une autre de l'autre côté de la vallée pour répondre aux normes de la Ligue. Et à cette occasion, après un adieu en bonne et due forme, chant, discours, et tutti quanti, nous sommes rendus de l'autre côté de la vallée, à l'autre patinoire, en emportant, l'idée était vraiment d'emporter l'esprit de la patinoire, l'esprit du club, donc de ce club alpin, dans la nouvelle patinoire, pour faire vivre cet esprit, le faire, disons, continuer, et en même temps le renouveler peut-être, l'esprit de cette équipe. Et puis, on s'est vraiment déplacer les supporters en cortège, presque en procession, avec drapeaux, chants, fumigènes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans un cortège de supporters. Et moi, à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, enfin ça m'a vraiment interpellée, cette notion de on prend cet esprit et on l'apporte dans la nouvelle patinoire. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Alors bien sûr, il y a quelque chose de très émotionnel, quelque chose de la ferveur populaire, vraiment de l'émotion, mais est-ce que, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse peut-être l'émotionnel et qui rejoint quelque chose de spirituel, quelque chose d'une plus qu'un faire communauté qui peut-être transcende un petit peu cette communauté et rejoint quelque chose de plus spirituel, de l'ordre d'une communion.
Mais est-ce qu'on peut dire que dans le sport, il y a quelque chose de spirituel? Si on regarde le vocabulaire employé sur un terrain de foot, par exemple, on va parler de la ferveur populaire, on va parler de la communion, on a la crucifixion parfois, quand le gardien, justement, ne peut pas retenir la balle qui entre dans le but. Il y a aussi la consécration, quand on parle d'un stade de foot, on parle du temple du sport. Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans le sport?
Oui, alors bonjour et merci. Bien sûr, il y a sûrement quelque chose de spirituel, ne serait-ce que dans ce qui nous meut, dans ce qui crée l'esprit d'équipe. Certainement qu'il y a quelque chose de spirituel, effectivement. Voilà.
Comment vous l'avez vécu, justement, peut-être avec un événement qui vous a marqué?
Alors, en fait, en pensant sport et communion, j'ai pensé un peu à trois choses. J'ai pensé effectivement à la Coupe du Monde de foot en 1998, avec le fait que j'étais à la fois, je travaillais à l'époque chez Capgemini comme ingénieur, ça regroupait tous mes collègues autour du match de foot au niveau familial, et j'étais aussi candidate dans la congrégation religieuse dans laquelle je suis maintenant, et ça rassemblait de la même manière des vieilles sœurs aux plus jeunes autour de la télévision et à supporter cette même équipe. J'ai pensé aussi au film Invictus, réalisé par Clint Eastwood en 2009, qui montre comment finalement le président Mandela, récemment élu, confronté à la division au sein d'une Afrique du Sud racialement, économiquement divisée, finalement soutient et s'engage auprès de l'équipe de rugby sud-africaine pour recréer l'unité au sein de son pays. Et puis peut-être le troisième, il est plus personnel. Alors je ne sais pas si c'est, enfin voilà, je ne suis pas une grande sportive en fait, pour tout dire. Je fais du sport pendant les vacances, donc ça ne suffit pas en général pour faire un bon sportif. Et avant d'entrer dans la vie religieuse, comme dernière vacances, j'ai eu envie j'aime beaucoup la randonnée, j'ai eu envie de faire un 4000 mètres en Suisse, le mont Schönborn, dans le canton de Vaud, je crois. Et voilà, et je suis partie. On s'est inscrit avec deux amis dans un groupe avec cinq autres personnes que je ne connaissais pas du tout. Et pendant une première semaine, on était avec un guide montagnard pour s'entraîner, commencer par faire des 3000 mètres en vue du 4000. Et j'étais un peu plus faible que les autres au niveau du souffle notamment, et le guide est venu me voir en me disant: écoutez, j'ai peut-être une question quant à votre capacité à arriver à faire le 4000 mètres. Donc ce que je vous propose, c'est, j'ai demandé à chacun des membres, donc les 8 membres de la cordée, j'ai demandé aux 8 membres s'ils étaient d'accord éventuellement de ne pas aller au bout si jamais moi je n'arrivais pas à le faire. Et donc il y a eu l'accord des 8 personnes pour dire: ok, on prend le risque. Donc on a commencé à monter, donc on s'est levé à 2h du matin, on a commencé à monter, le froid, la fatigue, le souffle me manquait de plus en plus, et donc le guide a décidé de faire un arrêt et une pause. Je pensais à ce moment-là vraiment ne pas du tout y arriver, et il y a eu une forme de discernement collectif de mon état d'une part, et puis de la déception éventuelle des autres si on n'arrivait pas au bout. Et finalement, moi je me suis dit: allez, on y va. Et puis voilà, donc un effort et une transcendance de soi-même un peu pour y aller. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que le guide a construit la cordée en tenant compte du maillon faible que j'étais, donc avec le guide, moi-même, et puis ensuite quelqu'un qui était fort et avec beaucoup de souffle et de tonus encore derrière moi. Et en fait, quand j'avançais, lui, donc on marchait dans la neige, dans la glace, etc. Et donc à ce moment-là, quand on marche, il faut tapoter les crampons de manière à avancer. Et donc moi, j'en avais plus la force. Et donc c'était celui de derrière qui tapotait mes crampons. Et moyennant quoi, on est arrivé en haut, en haut du mont Bichorn. Et pour moi, il y avait à la fois de mon côté le dépassement de soi et la priorité donnée finalement au collectif, avec du coup pour les autres aussi l'abandon en fait d'une performance, l'abandon de ne pas y aller à leur rythme parce qu'ils ont dû vraiment traîner avec moi. Donc l'acceptation de ne pas y arriver plus tôt et de devoir redescendre sitôt arrivé. Voilà, donc cela a mobilisé un certain nombre de qualités telles que la patience, la compassion qui étaient présents. Et pour moi, ça a été un moment très fort d'expérience de communion. Et c'est vrai que la communion pour moi, cet exemple illustre l'expérience de communion, parce qu'à aucun moment je n'ai senti chez aucun d'eux, y compris lorsqu'il s'agissait de discerner si on redescendait ou si on continuait, de reproches ou de rancœur, avec la joie, et pour moi c'était le fruit d'une communion réelle, la joie de partager, d'y être arrivé et d'y être arrivé ensemble, et puis la joie de s'être dépassé physiquement aussi. Et en fait, je me disais que peut-être la possibilité de cette communion, elle avait été possible non seulement de la part de chacun des membres de cette cordée, mais aussi de la manière dont le guide en fait, avait construit l'accordé, la manière dont il avait vérifié que chacun était d'accord en amont, etc. Voilà, donc c'était pour moi une...
Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. On pourra reparler un peu plus tard dans la soirée de la question de la vulnérabilité. Quelle place pour la blessure? Quelle place pour celui qui doit rester sur le banc de touche? Quelle place pour celui qui est peut-être moins fort individuellement, mais comment le collectif porte un ensemble et permet à chacun de s'épanouir individuellement vers la victoire? On pourra en parler tout à l'heure. Georges, on termine ce premier tour de table avec vous. Des expériences sportives, vous dans le rugby, vous devez en avoir plein, à la fois comme sportif, comme supporter. Et puis alors j'imagine en Angleterre, le rugby, ça doit être incroyable. Racontez-nous.
Mon expérience de communion au sein du sport, comme vous l'avez dit, c'était avec le rugby et en Angleterre. Dans le sens qu'on avait un tournoi de rugby avec à peu près de 10 à 12 écoles. Qui se tournait autour de 3 jours. Et du coup, pendant ces 3 jours, toutes ces écoles, dont la mienne, se sont affrontées. Une compétition véritable où les gens ont tout donné, littéralement. Il y a eu des blessés, il y a eu des conflits. Et on voit la compétition du sport dans ce sens-là. Et pourtant, malgré ce conflit d'intérêts et ces envies différentes de vouloir représenter son école, que son école gagne, ça veut dire ses camarades, du coup quelque chose de très personnel, et à la fin, perdant comme gagnant, toutes les écoles se sont rassemblées au milieu du terrain et ont passé un moment ensemble de convivialité pour commémorer ce qui s'était passé au fil de ces 3 jours. Et je trouve ça vraiment très beau parce que on voit ici que au-delà de la compétition, au-delà des conflits dans le sport, il y a toujours une opportunité de se rassembler parce que oui, il y a un conflit d'intérêts et pourtant il y a un intérêt commun qui est de se consacrer au sport, de passer un moment ensemble et oui, véritablement de s'amuser. C'est très réel.
Mais quand même, on y va pour gagner, non?
On y va pour gagner, c'est sûr. Mais on y va pour gagner et quelle est la victoire en soi-même? Est-ce que c'est... C'est connu de dire qu'il y a une victoire dans la participation même. Et pour beaucoup, c'est dommage parce que non, il y a plus que ça, il y a toujours plus que ça. Mais le fait est que quand on va à un événement et on donne tout ce qu'on a, on peut pas demander plus de soi. Et quand on va se rassembler avec ses amis, ses camarades, et que l'équipe en face fait de même, en soi-même, il y a une communion dans le sens que tout le monde vient ici pour la même chose. Et ça, c'est une victoire en soi-même, la victoire de se rassembler d'autres écoles à travers tout le pays. Enfin, je pense que là est la victoire.
Mais regardez, la dernière Coupe du Monde, on est arrivé en finale. Moi, je suis pas très sportif. Je suis très heureux d'être avec vous, mais je suis pas un grand spécialiste des terrains de foot, ni de tennis, ni de ping-pong. Mais ça n'empêche que j'ai quand même suivi la Coupe du Monde la dernière au Qatar, et il se trouve qu'on est quand même arrivé en finale. On se souviendra, nous, l'équipe de France, de ne pas avoir été champion du monde, et pourtant, on était au là, on était vice-champion du monde, d'une certaine manière, enfin les deuxièmes, quoi. Et là, il y a quelque chose qui s'est peut-être un peu brisé. Comment vous l'avez perçu, ça, peut-être, Alessandra? Alors, en plus, vous avez un regard extérieur, puisque vous êtes suisse, donc vous pouvez y aller.
Alors, tout à fait, moi, j'ai un regard extérieur, aucun enjeu. ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement... dans un championnat, une Coupe du Monde d'une telle ampleur, ou que ce soit un championnat dans n'importe quelle compétition, les sportifs, les athlètes sont là pour gagner. Bien sûr, on se rassemble, la première victoire, c'est de se rassembler tous autour, mais finalement, si on est là, c'est quand même pour gagner. Donc, au final, échouer, si j'ose quand même le terme, échouer au pied de la victoire suprême et de la première place, c'est toujours difficile, c'est difficile, enfin, il faut le dire, et c'est une déception, en tout cas sur le moment. Je pense qu'avec le recul, peut-être qu'une amertume reste, parce qu'on se dit « Ah, si, on avait donné un peu plus, si... » Mais avec le recul, je pense qu'on est capable de peut-être remettre les choses un peu en contexte, d'avoir un regard un petit peu plus global et de se dire « Waouh, on est quand même arrivé jusque-là ». Ok, peut-être l'adversaire ce jour-là était plus fort, peut-être que... Mais en tout cas, je crois qu'il y a toujours cette ambivalence qui fait partie finalement du sport. Et oui, on est là pour gagner, mais on est déçu, mais dans le fond, on est capable aussi, je pense, de reconnaître l'effort fourni et le chemin accompli.
On va essayer de traverser un petit peu la complexité de cette communion dans le sport et des ambiguïtés aussi qu'elle peut faire naître cette communion ou ce désir, cette image de communion qu'on a peut-être quand on voit une équipe. Là, la défaite est sans doute moins difficile quand on est une équipe que quand on est un joueur de tennis seul en finale de Roland-Garros où sa vie à soi seul quasiment se joue.
Si je peux me permettre. Alors, je pense effectivement, il y a quelque chose. Alors, moi, je viens d'un sport collectif, donc j'ai pas trop l'expérience d'un sport individuel. Je pense qu'effectivement, dans le sport individuel, il y a vraiment quelque chose de. C'est toute ma vie. Et si j'échoue, j'échoue dans ma pleine personne, et c'est toute ma vie qui s'écroule entre guillemets, selon les compétitions. Après. Échouer en équipe, alors oui, peut-être c'est plus facile dans le sens où la responsabilité est peut-être un peu partagée, mais justement, ça devient difficile parce qu'il y a des tensions qui peuvent naître, des reproches des uns et des autres qui arrivent, certains qui ont l'impression d'avoir tout donné, d'avoir joué, fait tout ce qu'il fallait et qui se disent « Ah, mais mon coéquipier, là, s'il avait donné un peu plus, peut-être qu'on serait arrivé. » Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit plus simple d'échouer en équipe.
Vous voulez réagir ?
Non, je suis assez d'accord dans le sens que y a un sentiment de déception qui est partagé. Et du coup, oui, il y a quelque chose de gratifiant là-dedans, qu'on n'est pas seul à travers cette épreuve. Et pourtant, on voit ses coéquipiers tristes, déçus. Souvent, il y aura le sentiment que c'est aussi de notre faute, même si c'est rarement de notre faute directement. C'est souvent une erreur. Et souvent, ce n'est même pas une erreur, c'est juste que l'équipe en face était meilleure. Mais jouer en collectif, c'est sur le moment, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui sur le moment fait très mal, et que après, plus tard, avec un recul, moi j'avais donné un aspect très positif à la défaite, et que la victoire, c'est en participant, et il y a une vérité là-dedans. Mais vous dites ça à un sportif sur le moment, il va pas l'accepter, c'est clair et évident. Il y a beaucoup d'émotions dans le sport, et du coup, quand un groupe échoue, la déception, c'est aussi x10, ça peut faire très mal.
Et ça interroge sur le sens du match et même du collectif. Pourquoi on joue ? Pourquoi on gagne ? Pour quoi en deux mots ? Et pour qui ? Parce que quand on échoue, c'est pas seulement l'équipe qui désespère, mais c'est parfois tout un village, toute une région, tout un pays, quoi. Anne-Solène.
Oui, et peut-être qu'on sent aussi on sent qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous ont soutenus ou de ceux qui se sont engagés pour soutenir l'équipe, de fait. Après, de fait, j'imagine que dans la déception, comme tout ce qui nous arrive de mauvais, on cherche toujours des coupables. Enfin, c'est un peu le réflexe immédiat. Mais de fait, comme vous le disiez. On peut, autant la communion elle peut être dans le jeu, elle peut être aussi peut-être dans le soutien réciproque pour vivre cet échec là. Peut-être aussi que, et lors de la finale, ce qui a peut-être joué, c'est la manière dont on perd peut-être. Et là, je crois qu'il y avait l'arbitre qui était, enfin, ou la décision de l'arbitre qui était.
C'est contestée. Toujours la faute de l'arbitre.
Mais peut-être que parfois c'est ça. Enfin, il y a des amertumes, d'injustice, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, qui était ou qu'on a effectivement mal joué. Mais peut-être qu'on peut dépasser la. Alors, je regarde ceux qui sont plus sportifs que moi. Peut-être qu'on peut dépasser plus facilement la déception si on a le sentiment aussi d'avoir bien joué, d'avoir vraiment joué ensemble, d'être allé au bout. Enfin, ça, je sais pas.
Est-ce qu'on peut transposer ce qui se passe dans une équipe à la société, justement pour essayer de se faire une image de cette communion vécue en équipe comme étant le reflet d'une communion sociale, quoi, ou sociétale même. Alessandra.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut transposer dans la mesure où, de toute façon. Les expériences qui ont lieu dans la société, les expériences qui ont lieu dans le sport se reflètent les unes les autres, s'alimentent les unes les autres, et je ne pense pas qu'il y ait l'un ou l'autre qui soit le modèle de l'un ou l'autre. Simplement, peut-être dans le sport, effectivement, c'est un lieu qui peut-être cristallise et exacerbe certains mécanismes, certains fonctionnements, justement peut-être de communion, le fait que l'effort physique demande un engagement particulier de chacun, pousse peut-être à expérimenter, à vivre une certaine communion un peu plus profonde, ou des relations en fait entre les personnes dans le sport plus profondes, dont peut s'inspirer aussi la société dans différents groupes.
C'est quoi la nature de la relation entre les membres d'une équipe d'une équipe de hockey ou de foot ou de rugby? Comment est-ce que cette communion se crée?
Alors, c'est très
complexe. Mais si on prend l'exemple du rugby, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a qui sont plus larges, plus fins, plus rapides. Enfin, voilà, il y a chacun un peu à sa juste place, quoi. C'est pas une combinaison de génies identiques.
Non, surtout pas. En général, ça fonctionne très mal. Je crois qu'il faut vraiment avoir, comme vous disiez, des personnes qui sont à leur juste place. C'est-à-dire les grands, là où ils sont le plus utiles ou compétents dans leur sport respectif, les petits, la même chose, et puis que chacun puisse avoir sa place et créer un ensemble, vraiment cette idée de, d'unité dans la diversité, comme on peut se rappeler très bien le texte de Paul et, sur le corps. Et je crois aussi que parfois, alors là, si j'ose encore une anecdote, parfois la communion, elle vient de quelque chose qui est assez intangible et c'est très très complexe. Par exemple, justement, il y a quelque temps, avec mon équipe de hockey sur glace, nous avions un match dans une ville, enfin à l'extérieur. On avait pas mal de trajets de route et on s'est retrouvé à 8. Donc le minimum pour jouer un match de hockey, sachant qu'on est 5 sur le terrain avec changement. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, on déclare forfait, on a dit non, on y va. Et on était dans ces 8 joueuses, on était de loin pas les plus fortes de l'équipe. Il y avait vraiment tous les niveaux. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que, à un moment donné, on n'avait plus le choix. Il fallait y aller et il fallait qu'on soit là toutes les unes pour les autres. Et donc, il y a eu vraiment une sorte de communion qui s'est créée, où sur la glace, on s'est vraiment encouragé. Quand une faisait une bêtise, on rattrapait derrière. On encourageait les plus faibles. Et vraiment, tout le monde a donné du sien. Et ça, on a quand même perdu le match, mais ça a donné quelque chose de vraiment, vraiment bien.
Et j'aimerais ajouter quelque chose à ça par rapport au fait que comment créer une équipe, comment est-ce qu'on rentre dans une équipe, c'est très intéressant dans le sens que vous l'avez dit, il y a des parties différentes qui ne sont pas forcément les mêmes, il y en a grands, il y a des petits, oui, mais au-delà de ça, il ne faut pas avoir seulement les bonnes capacités à rentrer dans le bon moule, il y a aussi quelque chose de relationnel par rapport aux équipes de sport qui va se refléter aussi dans la communion. La communion verticale dans ce sens-là, mais c'est que au-delà d'avoir les bonnes capacités, il faut avoir du vécu. Et comme vous l'avez dit, quand vous étiez descendu à 8 pour aller faire ce match, ou moi récemment j'étais dans un match de rugby, on n'était que 15, il n'y avait aucun remplaçant, on était dans une situation où il fallait qu'on mette tout ensemble, il fallait qu'on se rassemble et qu'on se soutienne l'un avec l'autre. Et ce vécu, ça donne une sorte de lien entre les joueurs, entre l'équipe, qui ensuite est très difficile à enlever. Et du coup, au-delà des capacités, en effet, oui, il y a une relation. Oui, c'est comme une amitié ou plus. Ouais.
Et qu'est-ce qui crée cette unité? Est-ce que ça vient du coach? Est-ce que ça vient d'une personnalité? On voit bien dans les grandes équipes, que ce soit en rugby ou dans le foot, il y a des grandes personnalités qui sortent un peu du lot. Et on l'a vu dans la Coupe du Monde de rugby. Quand le capitaine a été blessé, ça a déstabilisé très profondément l'équipe et les supporters. Et puis quand il est revenu, mais on n'était pas aussi fort. Et donc on se pose la question. Puis alors dans le foot, alors tout tourne autour de Kylian Mbappé. Donc forcément, il faut que s'il n'est pas là, on est tous un peu perdus. Donc en fait, est-ce que l'énergie, la communion tient au coach, à une personnalité ou des personnalités dans l'équipe? Ou est-ce que les personnalités justement doivent se faire plus discrètes pour servir le collectif? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qui serait une perspective intéressante de ce point de vue-là?
J'imagine que ce qui fait la cohésion, c'est déjà une motivation commune, un projet commun. Et ça, ça veut être vrai pour une équipe, ça va être vrai aussi pour une société. Ce qui est clair, j'imagine, c'est que l'équipe, elle n'est pas une somme d'individus. Et peut-être que, effectivement, les meilleurs joueurs que l'on met ensemble... Peut-être qu'ils ne feront pas du tout une bonne communauté, parce que une bonne communion d'équipe, parce qu'il y aura des jalousies, il y aura des rivalités, il y aura des enjeux économiques, financiers, etc. par derrière qui brouilleront les choses. Donc c'est peut-être la motivation, le désir de partager, l'abandon peut-être de son propre ego pour se mettre au service d'un projet commun. Pour la fierté nationale, probablement qu'il faut qu'il y ait une conjonction des désirs vers un but commun.
Et jusqu'où doit aller ce désir de but commun? Est-ce qu'il faut s'oublier finalement individuellement ou pas?
Alors à mon avis, le bien des personnes va de pair avec le bien commun si les choses sont pensées de manière juste, si ce projet est juste. Et donc, oui, après, il y a vraiment la question des limites, effectivement. J'imagine que vous vous la posez souvent comme sportif.
Mais... Dans le hockey? J'imagine un peu dans tous les sports collectifs, quoi. Jusqu'où est-ce qu'on est capable de faire, là encore, un mot tiré de la tradition chrétienne, jusqu'où on est capable d'aller jusqu'au sacrifice, jusqu'au martyr, quoi?
Alors, pour moi, le sacrifice, alors il ne sera pas, disons, au sein de l'équipe. C'est-à-dire que, pour moi, il n'est pas question d'effacer son ego dans l'équipe. C'est plutôt, comme on en a déjà parlé, trouver sa juste place et pouvoir exprimer sa façon de jouer le mieux possible, ce qui permet aux autres également de pouvoir faire de même. Et donc, on peut tendre tous vers le même but. Se sacrifier, alors moi, je vois plus ça comme... une question défensive, en tout cas sur le terrain, par exemple, se coucher devant un shoot adverse, et donc du coup, ça signifie recevoir le puck éventuellement sur son corps, mais pour éviter un but. Alors ça, oui.
Disons. Vous l'avez déjà fait ça, mais quitte à vous blesser même, et puis vous priver des matchs d'après?
Alors, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait. Alors, pas sous cette forme-là, peut-être sous d'autres formes, je ne sais pas, mais principalement parce que je joue en attaque, comme ça m'évite de faire ce genre de choses. mais certaines de mes coéquipières le font. Mais sinon, j'avais aussi juste envie de rebondir sur qu'est-ce qui fait un petit peu l'unité, la cohésion, ouais. L'unité.
Et comment puis, on la crée, comment on la préserve.
Voilà. Voilà, exactement. Et j'avais réfléchi un peu autour de ça, et je pensais à la culture du soin, en fait, que prône le pape François, et toute cette question du prendre soin, justement, en éthique aussi. Et je trouvais que c'était assez intéressant de réfléchir en ces termes sur le sport, et puis en me référant au message pour la paix du pape François, donc du 1er janvier 2021, il parle à un moment donné, il fait une référence à la Genèse où il dit donc que Dieu a remis entre les mains d'Adam la création, ce qui signifie d'une part rendre la terre productive et d'autre part la protéger et lui conserver sa capacité de soutenir la vie. Et puis à ce niveau-là, je me suis dit, en fait, c'est peut-être un petit peu le rôle du coach, un des rôles du coach de... et éventuellement de chaque membre de l'équipe aussi, de faire en sorte de rendre productif chaque membre de son équipe, mais en même temps de le protéger et de lui conserver cette capacité à soutenir la vie ou soutenir peut-être cette fécondité créatrice dans le jeu sportif, et d'essayer de tenir ensemble un peu la question de la production, de la fécondité, donc de la performance, et en même temps de l'esprit d'équipe, de la communion, de l'esprit du jeu. Voilà, donc cette tension, en fait, un peu entre efficacité et fécondité.
Georges ?
Je voulais aussi rebondir sur la place de l'individualité au sein du sport et des égos ou pas. Et je pense que c'est une erreur de renier l'individualité au sein du sport, parce que c'est ça qui nous rend géniaux aussi dans ce sens-là, c'est qu'on a chacun notre façon de faire. Mais pourtant, on se rassemble tous autour d'un but commun. Et du coup, oui, il y a un but commun. Et pourtant, ça va pas. Enfin, c'est pas mutuellement exclusif à avoir une individualité, parce que, comme j'avais dit précédemment, chacun a son chemin. Et de même, par rapport aux égos, on est individuel. Et dans un groupe, je pense qu'il y a une certaine nécessité à un meneur au sein du groupe même, parce que le coach, il va quand même se séparer de l'équipe à un certain niveau. Il fait pas intégralement partie des joueurs. Et du coup, au sein de ces joueurs, c'est bien d'avoir des gens qui vont aller au-delà, qui vont essayer de soutenir leur équipe et les mener vers le haut. Mais il y a aussi l'importance que ce poste de leader ne tombe pas dans un ego surdimensionnel ou dans un ego qui est malsain. Parce que dans ce cas-là, c'est plus un meneur qui va surélever son équipe, mais c'est un meneur qui va penser à soi-même et son succès personnel. Et ça peut être une bonne chose, parce que ces joueurs-là vont souvent performer d'une façon anormale. On voit justement avec un Kylian Mbappé ou un Antoine Dupont au rugby, ils surélèvent leur équipe. Et pourtant, comme avec Antoine Dupont, une fois que ce joueur est blessé, vu que tout le monde compte sur lui et que l'équipe est basée autour de lui, ça met un désordre. Et je pense que ça, vous parlez du rapport sociétal au sport, je pense que ça se répète à travers tous les domaines dans la vie humaine.
Alessandra ?
Ça met un désordre, effectivement, l'équipe est déstabilisée, et en même temps, parfois, alors ça marche pas tout le temps, mais souvent, du coup, les autres se disent « bon, ok, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose », et donc ça pousse chacun à prendre ses responsabilités, et puis à vraiment y mettre du sien, et puis à peut-être là où tout à coup on se dit « ah, mais c'est bon, il est là, il va gérer », en fait se dire « ah ben non, là il est pas là, donc c'est moi qui dois y aller ». Et peut-être ça pousse à la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être transférer effectivement à la société.
Là, j'ai une petite pensée quand même pour les défenseurs, les passeurs. On ne connaît pas leur nom, à part Lilian Thuram, parce qu'il avait marqué un but avant la Coupe du Monde 98, alors qu'il était lui-même défenseur et que ce n'était pas du tout habituel. Mais sinon, à part cette exception, c'est vrai qu'on entend peu parler d'eux. En tout cas, moi, je connais pas leur nom. On connaît que les attaquants, quoi. Kylian et Griezmann, c'est bien. Enfin, voilà, ils sont partout, on voit qu'eux. Et comment est-ce que vivent tout cela, ceux qui sont dans l'ombre, mais qui permettent justement d'avoir la passe ajustée pour que le but puisse être marqué? Allez, Georges. C'est pas un peu ingrat, ça? Moi, je sais pas si j'aurais envie d'être défenseur.
C'est-à-dire que les défenseurs vont obtenir le respect qu'ils méritent au sein des personnes qui regardent vraiment le sport. C'est-à-dire que, certes, dans le domaine public, on va seulement voir sur l'affiche un attaquant, un buteur, parce que, bien sûr, c'est eux qui finalisent l'action. Mais vous allez voir que dans les communautés qui vont être là chaque semaine pour regarder le match, ils vont connaître chaque joueur et leur importance. Mais oui, c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur. Après, on espère que le joueur aussi accepte le fait que pas tout le monde va avoir la lumière sur eux, et pourtant ça veut pas diminuer leur importance. Là on part plutôt dans quelque chose de commercial, de oui, c'est sûr que cette personne on la voit plus, c'est plus dans la lumière, mais les connaisseurs savent, ils savent qu'il y a de l'importance aussi.
Est-ce que c'est important d'apprendre à perdre? Est-ce que tout est focalisé sur la victoire, sur le but, sur la consécration comme on dit? Comment est-ce qu'on apprend à perdre, et en quoi la défaite parfois est utile, même spirituellement peut-être? Anne Solène.
Alors je vais répondre comme j'ai un esprit d'escalier, en revenant. Vous posiez tout à l'heure la question, est-ce qu'il y a une abnégation de soi ou un sacrifice de soi, et en fait je disais oui pour une part, et en fait oui pour une part, parce que quand on écoute les grands sportifs et ceux qu'ils veulent transmettre, par exemple aux petits jeunes qu'ils forment, il y a vraiment tout le vocabulaire des vertus. La ténacité, le courage, la volonté, le dépassement de soi, et donc une certaine abnégation aussi, le respect de l'adversaire, le respect des règles et de la discipline. Voilà, on a tout un tas de vertus, et aussi l'humilité, je crois, l'humilité de connaître ses limites, y compris lorsque l'on cherche à avoir l'excellence et le... Mais voilà, humilité de connaître ses limites et humilité aussi d'accepter de perdre. Et en fait, toutes ces vertus, souvent, elles sont le milieu entre deux excès. Et en fait, voilà, en répondant non pas à brûle pour point à votre question, mais en prenant un tout petit peu de réflexion, je me rends compte que j'ai fait l'erreur que l'on fait souvent, c'est de se focaliser sur une seule vertu, qui serait l'abnégation de soi, et de croire que du coup on a répondu totalement à la question. Et je crois que dans le sport comme dans les autres lieux, c'est finalement l'articulation et le fait de tenir ensemble, c'est la ténacité, la volonté, le courage, etc., qui va faire qu'on joue effectivement bien. Mais toujours dans cette articulation entre l'ensemble de ces vertus et aussi la vertu de fraternité ou la vertu de solidarité, alors que souvent on a tendance à les opposer ou à se focaliser sur une seule
sur une seule dimension.
Sur une seule dimension, oui.
Alessandra, est-ce que dans un club de hockey comme le vôtre, on se prépare à la défaite? On a tout donné, on sait qu'on peut vraiment, on est au max, mais potentiellement, là, on va perdre. Comment on s'y prépare? Quel impact humain aussi ça peut avoir? Qu'est-ce que ça génère, quoi, de profond, la défaite dans son âme même?
Alors, on s'y prépare de façon un peu différente selon l'équipe contre laquelle on joue. Si c'est une équipe de haut classement contre laquelle on sait presque d'avance qu'on va perdre, je pense que c'est là où la préparation est peut-être la plus présente pour la défaite, dans le sens où on se dit, ok, si on gagne, c'est un miracle, mais on ne sait pas, peut-être ça peut arriver, mais en tout cas, on va essayer de tout faire pour jouer le mieux possible, pour que chacune puisse vraiment donner le meilleur de soi-même, puisse... donner son maximum, et puis voilà, si après on perd, on reconnaîtra que ce jour-là, ce jour-là, et puis cette équipe était plus forte, et donc on n'avait aucune chance.
Alors ça, c'est le fair play, et je trouve que c'est souvent beau de se dire, d'entendre tel joueur ou telle équipe dire ils étaient les meilleurs, il a mieux, je sais pas quoi, fait pour que ça marche et tout. Et en même temps, ça doit broyer l'âme d'avoir passé des semaines, des années peut-être à s'entraîner pour Roland Garros et puis d'arriver finalement en finale et de rater là quelques...
Oui, alors dans ce contexte-là, effectivement, c'est un contexte un peu différent que celui que je décrivais.
Ah, mais bon, dis, franchement,
dans ce contexte-là, en effet. non, alors là, dans ce contexte-là, il y a vraiment le risque, où ça arrive peut-être à chaque fois, je ne sais pas, mais en tout cas le risque de la remise en question globale de la personne, surtout dans ces contextes de compétition, de sport professionnel, où les personnes se définissent presque uniquement par leur être sportif. Au moment où une telle défaite arrive, c'est vraiment une remise en question complète. Sur le plan sportif, mais en fait sur le plan c'est ça, humain et personnel global. Et donc là, je crois que dans ce cadre-là, pour éviter l'échec total sur toute la ligne, disons, il faut vraiment, ce qui peut vraiment aider, c'est remettre les choses dans leur contexte, revoir les choses de façon globale et se rendre compte, ok, là j'ai perdu en tant que sportif, mon être sportif en est profondément affecté, et c'est clair que là c'est presque toute ma vie, mais je ne suis pas que ça. Je suis également un être humain, je suis peut-être un chrétien ou un croyant d'une autre religion, ou je suis aussi autre chose. Et j'ai les ressources pour, me reconstruire et revenir. Mais c'est clair que c'est un long chemin et c'est très difficile.
Sur le plan social, c'est fou comme la défaite aussi peut avoir un impact dans nos sociétés. Je pense en Angleterre, où le foot en particulier, c'est un lieu vraiment d'unité sociale, où les classes populaires peuvent facilement justement s'épanouir dans un sport qui crée une cohésion sociale très forte. Dans l'histoire même récente, hein, des 30 dernières années, quand certains clubs ont perdu des matchs importants, ça a pu générer même des crises sociales locales importantes. Justement, comment vous vivez ça, vous, quand vous voyez justement une défaite d'un club un peu majeur qui génère après des émeutes, même à l'intérieur du stade, même parfois il y a du hooliganisme, il y a des violences qui sont générées par ça, et c'est un peu surprenant, un peu choquant même.
Oui, bah alors moi j'ai le plaisir de soutenir cette équipe juste là, Manchester United, et pour ceux qui connaissent un peu, bah ça fait 7 ans qu'on perd chaque semaine. Du coup, je la connais bien, la défaite maintenant. Après, de ce que vous parlez par rapport aux émeutes qui en ressortent et vraiment les mouvements sociaux, ça c'était surtout auparavant. Maintenant le foot ça s'est un peu calmé, on trouve moins d'oligans en Angleterre aujourd'hui parce qu'il y a eu des régulations qui ont été mises en place et tout ça, mais aussi parce que la représentation justement des clubs de foot par rapport au peuple a drastiquement changé. Ça s'est commercialisé, mais auparavant, comme vous le disiez, il y a 20-30 ans et au-delà de ça, bah, les clubs c'était quelque chose qui était quand même très propre à certaines classes sociales. Bah, du coup, Manchester United, dans ce cas-là, ça a été un club qui a été créé par des ouvriers d'une usine spécifique. Et du coup, dans des cas comme ça, bah, le sentiment de communion au sein des fans était encore plus, plus présent, plus omniprésent. Et du coup, les centres d'intérêt, que ça soit au sein, pour leur équipe de foot ou dans des situations politiques, étaient les mêmes. Et du coup, à travers ça, on a retrouvé justement des influences sociales, des influences politiques au sein du sport. Mais aujourd'hui, on retrouve moins de ces émeutes sociales, enfin, selon moi, en tout cas en Angleterre. Oui.
Mais même en France, hein, quand dans le nord de la France, certains clubs chantent au nord, c'était les corons, il y a quelque chose de social qui s'exprime là. Et c'est assez marquant comme le sport peut avoir une répercussion dans certains univers sociaux ou certains groupes sociaux, que ce soit ouvriers ou autres d'ailleurs.
Oui, on voit bien comment il y a des enjeux politiques
Oui, c'est ça, finalement. Oui, si, finalement, c'est un enjeu politique. D'ailleurs, on se souvient de Chirac en 98 qui disait la France black blanc beurre, cette unité sociale, cette unité nationale incroyable, qui n'a pas vraiment duré.
Oui, c'est ça. Mais de fait, une victoire fait penser aux personnes que voilà, enfin, une nation, une société qu'elle vaut quelque chose, qu'on est bon, on s'associe, on n'a jamais touché un ballon de notre vie, mais on s'associe à la victoire et on a l'impression de
d'en être,
oui, c'est ça. Et je dirais de la même manière qu'Alessandra disait, en cas de défaite, on peut se dire qu'on n'est pas que ça, mais à l'inverse, on voit aussi que une victoire va permettre de dépasser une certaine déprime sociale ou de va remonter le moral de la société.
Pour arriver progressivement vers la fin de cette première partie, et puis après vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Voilà, je me suis relu un peu ce passage de la Bible et je l'ai retravaillé, je l'ai réfléchi un peu. On lit quelque part, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et je me suis posé la question de savoir si c'était adapté au sport. La fragilité, la limite, la vulnérabilité, la blessure. Est-ce que toutes ces faiblesses, toutes ces difficultés, ces drames aussi parfois, ont leur place dans le sport? Et est-ce que ils servent? Est-ce que ça dessert aussi, pourquoi pas, la communion? J'ai été très frappé. Il y a quelques temps, je suis allé à Rome avec une équipe de football d'anciennes légendes du football. C'était le Variété Club de France. Et parmi ces joueurs qui étaient là, il y en avait qui avaient été au plus haut niveau et qui, pour certains, avaient vécu le drame de devoir s'arrêter alors que leur carrière était fulgurante. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogé de voir ces gens qui avaient tout donné pour le foot, tout donné pour le sport, qui étaient arrivés à tutoyer les sommets et qui se retrouvent finalement dans leur faiblesse à n'être entre guillemets plus rien, quoi. Alors qui on est dans le sport quand on devient faible d'une certaine manière?
Bah moi je pense que ça ramène déjà à la question de la perte que vous avez parlé, où bah en effet la perte fait mal, elle fait très mal même, mais c'est justement que à ces moments-là qu'on va évoluer en tant qu'équipe, parce que c'est là où on voit les failles, les problèmes, et que bah quand je suis faible en tant qu'individu, quand je suis fort en tant qu'individu, bah tout simplement je ne sais pas où sont mes limites, je ne sais pas quelles sont mes failles, et il y a une ignorance là-dedans aussi. Et que bah une fois que je suis faible, une fois que je commence à perdre, bah là je vois la réalité en face, et là j'apprends à surmonter ces épreuves, et c'est comme ça qu'on devient encore une fois plus fort. Et chaque fois, ouais, c'est un pas en arrière mais trois pas en avant à chaque fois. Et du coup, je pense qu'il y a un ralliement à cette phrase à ce niveau-là.
Et je reviens justement alors à votre témoignage du départ, Anne Solène, justement. Est-ce que l'équipe que vous formiez avec ces quelques alpinistes là était plus forte avec vous? Pardon de le dire comme ça, c'est pas du tout... Moi-même, je serais absolument incapable de faire quoi que ce soit, donc je peux y aller.
Alors, je dirais pas qu'ils étaient plus forts physiquement avec moi, ça c'est clairement non. Mais par contre, leur joie était peut-être plus grande. Enfin, parce que... Il y avait d'une certaine manière la beauté du geste ou la beauté d'être allé au-delà des difficultés, d'avoir fait corps ensemble aussi. Et finalement, c'est plus la joie de gagner, mais c'est la joie d'avoir fait corps ensemble pour arriver à la réussite. Et finalement... C'est ça la joie des faibles, c'est aussi finalement de pouvoir s'appuyer sur les autres et de ne pas attendre son salut de soi-même, mais de l'attendre de ceux qui sont autour de nous ou de celui qui nous a créés ou qui nous donne la vie ou qui nous donne de nous surpasser justement. Et la force, elle est là.
Est-ce qu'il y a une place pour les blessés dans une équipe? Et quelle est cette place, Alessandra? Est-ce que ça vous est arrivé d'être blessé?
Oui. Oui, ça m'est arrivé. La question des blessures est assez complexe également. Ça dépend, c'est-à-dire, c'est vraiment un peu dépendant de l'équipe, de l'état d'esprit de l'équipe, et puis des relations qui existent au sein de l'équipe. Effectivement, moi, ça m'est arrivé d'être blessé, alors plusieurs fois, mais la première fois que je me suis blessée assez sérieusement, que je me suis retrouvée loin de la glace durant 6 mois, je me suis dit assez rapidement, ok, je vais être loin de la glace, mais il va falloir quand même que j'aille au match, soutenir au moins l'équipe, ouvrir la porte pour mes coéquipières, pour qu'elles puissent entrer et sortir de la glace, enfin être présente, être là, parce que sinon, plus personne ne va se rappeler de moi. Je le dis de façon un peu directe.
C'était pour exister, quoi.
Pardon?
C'était pour exister, pour être là.
Oui, c'était pour exister, et puis parce que personne n'est irremplaçable finalement, et puis passer les premières déceptions, les premiers émois de « oh là là, elle est blessée », après on est assez vite oublié. Donc après, je sais pas si c'est pareil dans toutes les équipes, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas, et puis c'est très difficile, à l'inverse, effectivement, comme joueuse qui a une coéquipière blessée, je trouve aussi que c'est très difficile de garder le contact et de garder cette personne au sein de l'équipe, parce que de fait, elle ne joue plus avec nous, et il faut qu'on lui retrouve une nouvelle place, il faut qu'elle se crée une nouvelle place. Enfin, c'est toute une dynamique à remettre en place. Je n'ai pas de solution miracle, mais c'est une vraie question.
Mais pour ajouter à ça, je pense que ce que vous dites est très vrai, mais ça va aussi dans l'autre sens. Que moi, je me souviens quand mes amis étaient blessés, et pas seulement mes amis, enfin des membres de l'équipe qui étaient blessés, il y avait aussi cette volonté de la part de l'équipe de jouer pour eux. Quand on avait des matchs, on les voyait sur le côté qui ne pouvaient pas jouer, et ça procurait un certain malheur. Et même s'ils se donnaient à fond pour être là chaque entraînement, nous regarder, nous encourager, Mais du coup, nous, ça donne aussi, ça nous donne aussi une envie de jouer pour eux. Et du coup, il y a une place du blessé dans l'équipe. Après, je pense que dans le milieu professionnel, ça devient plus compliqué. Encore une fois, là, c'était une équipe d'école. On se connaissait tous. On était tous plus ou moins amis, bien sûr. Quand il y a tout un contrat qui rentre dedans, je pense qu'il y a une complexité. Mais dès le moment où il y a une relation entre joueurs et une bonne entente, on va toujours trouver un moyen de jouer pour l'autre, même si celui-là n'est plus là.
Est-ce que c'est un peu à l'image de notre société en France, dans la société en général, on s'interroge de ce qu'on peut faire des personnes les plus fragiles, à la rue, les personnes handicapées, au début, à la fin de la vie. On s'interroge sur la place qu'on peut donner à ces personnes-là. Est-ce qu'à ce titre-là, le sport peut être un modèle quoi, pour la société, dans le sens où peut-être pas à tous les niveaux, mais dans certains niveaux, en tout cas, on laisse une place, on fait une place aux blessés. Anne-Soulaine.
J'ai perdu.
Ils servent à quelque chose. Moi, je vais te poser la question de savoir si un blessé sert à quelque chose, s'il est utile, s'il peut faire gagner l'équipe. Et à ce titre-là, si dans la société, on a besoin des personnes qui sont en précarité, fragiles, blessées, laissé sur le bord de la route.
Ce que je pense, c'est que une société qui est juste et qui donne sa place à tout le monde, elle va probablement arriver plus facilement à créer une cohésion. Et que de la même manière, dans une équipe de foot ou d'autre chose, l'environnement aussi et les institutions qui vont porter cette équipe, si elles sont justes, permettront et faciliteront de fait une meilleure cohésion.
Alessandra ?
Oui. Non, je crois qu'on voit aussi dans l'exemple que Georges a donné qu'effectivement, lorsqu'on laisse une place aux blessés, lorsque les blessés sont là au bord du terrain, ils ont toute leur place en ce qu'ils ils encouragent et ils portent d'une certaine manière également l'équipe. On sent qu'ils font partie de l'équipe et que chacun a sa place et chacun est un socle, pour ainsi dire, pour l'équipe. Alors là, c'est une façon de réinventer, disons, ce socle, mais c'est une façon également de faire de la place aux faibles et de voir que c'est pas seulement leur faire de la place, mais c'est qu'ils contribuent également à la victoire sans être eux-mêmes concrètement sur le terrain.
Je pense que si on va parler de société, je pense qu'il y a déjà un devoir de se mettre au service des gens plus faibles. Je pense que ça va au-delà de est-ce que c'est utile ou pas. Et dans ce sens-là, c'est difficile de qualifier quelqu'un de faible ou pas parce que, comme je l'ai dit, certes, cette personne peut être blessée dans un contexte sportif, mais ça ne veut pas dire que cette personne est faible, ça veut juste dire que cette personne a un manque dans un aspect spécifique, mais c'est-à-dire que cette personne n'est pas faible dans son apport qu'elle donne à l'équipe. Et du coup, je pense pas qu'on peut parler de faiblesse. Je pense que c'est différent. Il y a justement différents aspects et chacun peut donner quelque chose, peu importe sa situation. Et je pense que ça va pour le sport comme pour tout.
Oui, mais ça passe. Une fois que l'équipe se renouvelle, le blessé, il reste blessé. Puis l'équipe se reconstitue et il est quand même laissé finalement sur le bord de la route. On a besoin des meilleurs malgré tout. C'est terrible ça, hein, c'est vraiment la loi du plus fort. Là.
C'est toute l'ambivalence du sport, parce qu'effectivement, on a besoin des meilleurs. Disons que le sport fonctionne selon une logique de performance, en tout cas le sport de haut niveau et le sport professionnel. Donc, on mise sur les meilleurs et on se concentre là-dessus. Et en même temps, on voit bien dans les témoignages qu'on a apportés, dans ce qu'on a dit, comment l'ensemble des personnes qui font partie de l'équipe, qu'elles soient blessées ou pas, peuvent avoir une contribution. Mais pour disons, prendre conscience de cela et peut-être arriver à le mettre en pratique, il faut vraiment, je pense, avoir aussi un certain changement de perspective et un certain changement peut-être d'objectif principal. Alors oui, la performance, mais peut-être est-ce qu'on peut mettre en avant le développement de la personne, la croissance humaine, est-ce qu'on met en avant les valeurs apportées par le sport, est-ce qu'on met en avant justement la culture du soin, le prendre soin, enfin peut-être que l'objectif global est à repenser ou un peu à déplacer ou à élargir. Mais clairement, la performance reste et je le dis aussi en tant que... cette tension existe en moi personnellement, disons, en tant que sportive, j'ai envie de vous dire, ben non, on y va, il faut performer. En tant que théologienne, voilà, je remets les choses un petit peu dans un contexte élargi, mais c'est pas facile, c'est vraiment une tension à essayer de tenir dans un certain équilibre.
Allez, une toute dernière question pour vous trois avant de laisser la parole au public qui pourra poser des questions, témoigner, intervenir, réagir. Qu'est-ce que la communion dans le sport nous dit de Dieu, nous les chrétiens? Allez, Anne-Solène.
Je crois qu'il nous dit que la communion est au-delà de nos propres forces. Enfin, on le voit bien, vous le disiez, parfois on ne sait pas bien d'où vient la communion qui s'est créée entre nous. Oui, il y a ce qu'on y a mis, il y a ce qu'on y a apporté, et puis il y a quelque chose d'autre qui nous est donné pour combattre, peut-être aussi. Enfin, on a peu parlé du combat spirituel qu'il peut avoir. Je pense quand on est joueur, avec des tentations peut-être parfois de tricher un peu ou de dopage ou de je ne sais pas quoi. Et peut-être que c'est aussi dans les forces qui nous viennent pour lutter contre ces tentations que l'on reconnaît l'action de Dieu et le soutien de Dieu.
Alessandra.
Alors, qu'est-ce que le sport nous dit de Dieu? Alors... Je trouve toujours un peu compliqué ce genre de questions, mais...
L'expérience de la communion dans le sport.
L'expérience de la communion dans le sport,
allez,
c'est ça.
C'est vrai qu'on pourrait comparer la communion d'une équipe au peuple des chrétiens qui en procession dans la messe, vient recevoir le corps du Christ. Il y a quelque chose d'eucharistique presque, alors.
Oui, il y a quelque chose d'eucharistique, il y a quelque chose de l'ordre de la réception, comme le disait aussi Anne-Solène, qui est au-delà de nos forces, au-delà de notre contrôle. Moi, je m'étais aussi posé la question, parce que finalement, on fait un peu le lien entre communion, communauté, mais est-ce que la communauté, c'est la communion? Est-ce que la communion, c'est la communauté? Est-ce que c'est un peu différent? Je pense qu'il y a quelque chose là aussi un petit peu à explorer, à distinguer. Et puis, moi, j'avais l'impression que on est... Dans le sport, dans les équipes, dans une communauté qui est marquée principalement peut-être par l'appartenance sociale, l'appartenance culturelle et identitaire, quelque chose, disons, principalement d'horizontal, et puis que de temps en temps, justement, on arrive à ces moments de communion. On ne sait pas très bien comment, on les reçoit, et c'est quelque chose qui est au-delà, justement, pour moi, de l'appartenance sociale et culturelle, et qui peut-être est de l'ordre plutôt de la relation et de la relation spirituelle. Il y a comme un approfondissement des relations communautaires qui se jouent dans la communion et qui devient spirituel. Et je pense que peut-être ce que ça nous dit de Dieu, c'est cette façon pour nous d'être ensemble, de prendre soin et puis d'être ouvert à cette réception spirituelle qui peut se manifester sans qu'on s'y attende forcément à certains moments.
Si je devais ajouter quelque chose, je pense que vraiment s'il y a un point de croisement entre Dieu et le sport, ça va vraiment être dans l'aspect relationnel du sport. On parle de communion dans le sport. Je pense que la foi chrétienne est tellement ancrée dans le fait qu'il y ait une relation homme-Dieu, et ça, on va retrouver cette relation à travers plein de choses, on va la revoir. Et du coup, dans le sport, on se retrouve avec d'autres personnes et on doit établir une relation. Il y a quelque chose dans l'émotion et il y a un chemin à deux voies qu'il faut établir. Et du coup, je pense qu'on peut mettre un lien entre les deux, une analogie, si vous voulez.
Eh bien, merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Georges, Alessandra et Anne-Solène, merci beaucoup pour voilà déjà ces réflexions que vous nous partagez sur ce sujet ô combien vaste et qu'on n'a pas du tout fini d'explorer. Je vous propose voilà de prendre la parole et puis si vous voulez voilà interroger nos invités, allez-y et présentez-vous si vous voulez.
Gilles Lecoq de la faculté d'éducation. Donc merci pour les échanges. Alors, un petit clin d'œil pour commencer. Je me souviens pendant la Coupe du Monde de rugby que le pape François a fort apprécié, a ressenti de la joie à être présent au stade Vélodrome entre deux matchs de rugby. C'est pour rappeler un petit peu peut-être le symbolique hein, des enceintes. Il est question de Manchester United, mais tous les stades hein, ont peut-être pas une âme, mais il y a quelque chose hein, dans ces lieux. Et puis en termes de, alors pas témoignage, mais peut-être comme question, c'est est-ce que nous sommes prêts dès aujourd'hui à accueillir les exclus des Jeux, dans le sens où en ce moment il y a les sélections qui ont lieu, et donc il y a énormément d'athlètes à qui on a dit en 2017 vous étiez la génération 2024, mais en 2024 vous n'êtes plus rien. Donc est-ce que nous sommes prêts à ne pas attendre l'ouverture des Jeux, mais dès maintenant, si on croise des personnes au bord du chemin, donc à les accueillir et à les accompagner dans la force de leur faiblesse. Alors c'est une question, s'il y en a qui veulent la reprendre au vol.
Dans la force de leur faiblesse. Belle figure de style. Allez, Georges.
Non, mais j'ai juste. Enfin, je pense que le sport, c'est un aspect qui est très sélectif. Et du coup, justement, on va voir des personnes qui ont été sélectionnées à un moment qui ne sont plus à la fin. On avait parlé de l'exclusion au sein du sport et du fait que bah, les blessés, en fin de compte, surtout si on regarde le professionnel, ils vont être mis à l'écart. Ils vont plus avoir leur place. Je pense que ça trouve. Il y a des ressemblances entre le sport et la foi et le sport et la religion et le christianisme, si vous voulez, mais il y a aussi des endroits où il y a une séparation. Et j'espère que la foi, quand même, ne va pas aller au point où on va enlever la possibilité des gens et exclure des gens dans le sens que bah, je pense que tout le monde peut trouver sa place. Du coup, ça, bah, après, ça, c'est ma vision. Hein, mais voilà.
Anne-Solène ?
Peut-être aussi une chose, ce qui est que... pardon. On a peu pris en compte le fait que les Jeux Olympiques, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils sont pris dans des enjeux économiques, politiques, financiers extrêmement importants, et que peut-être, enfin, ce que vous nommez, c'est de retrouver l'esprit initial des Jeux Olympiques, qui n'était pas tant de gagner que de participer, selon la devise de Coubertin. Mais du coup, peut-être que ça renvoie dans... Je suis frappée quand on parle à un sportif, la manière dont il parle de son entraînement, des exercices qu'il fait pour arriver au plus haut niveau, se rapporte un peu à ce que l'on dit des vertus, que l'on travaille. Et finalement, dans les vertus, c'est le fait même du geste, du beau geste, que l'on parvient à faire, qui donne de la joie. Et du coup, peut-être que voilà, ce que vous dites nous alerte sur le fait qu'on a perdu peut-être la joie de la beauté du geste qui se suffit à elle-même.
Alessandra ?
Alors moi, je rajouterais juste que peut-être c'est justement la place pour l'aumônerie sportive. Et alors, je ne sais pas exactement quelles sont juste les actions qui sont faites là actuellement par Holy Games ou les aumôniers sportifs dans le cadre des JO 2024. Mais alors, pour moi, ce serait typiquement cet espace-là qui serait à prendre par une aumônerie, par des aumôniers en milieu sportif qui puissent... agir là où personne n'agit, où il n'y a plus personne, et agir dans l'ombre, de nouveau être ceux qui font la passe, ceux qui défendent, ceux qu'on ne voit pas, mais qui soutiennent vraiment ces vies humaines qui détruites pour certaines et qui puissent être capables de montrer en fait à ces personnes que justement elles ne sont pas que ce sportif déchu à ce moment-là, parce que je pense qu'à ce moment-là c'est effectivement de cette façon-là que la personne se considère et se comprend, mais qu'elle a peut-être d'autres ressources à mettre en œuvre. Mais c'est un long chemin. Mais à mon avis, voilà, c'est une question de l'aumônerie sportive.
Je reprends, Philippe Marseille, je reprends le flambeau, Alessandra, pour vous dire qu'effectivement, cette occurrence des Jeux Olympiques à Paris nous amène, nous, Église, à réfléchir à cette absence qu'on avait dans le monde sportif, de prendre soin du spirituel, de prendre soin de l'intégralité de la personne, et non pas simplement de sa performance ou au contraire de son échec, que ça nous a permis de créer des liens avec l'INSEP, qui est donc l'Institut de sport et d'expertise et de performance, pour que puisse être accompagné dans l'année et pas simplement dans l'événement des sportifs qui sont en attente, qui sont en demande, mais dont on n'exploite qu'une seule partie de leur personnalité. Et donc l'un des objectifs de Holy Games, c'est aussi de faciliter à partir de l'année prochaine des créations d'aumôneries par diocèse ou de personnes formées et disponibles pour accompagner le haut niveau et puis le moyen niveau aussi, et puis continuer cette recherche d'unification entre le corps et l'âme et l'esprit, et non pas simplement la performance du corps qui, lorsqu'elle est une déception, devient une dépression. Et donc d'utiliser ces forces qu'on met en mouvement aujourd'hui avec Holy Games pour l'avenir du sport et de la foi en France.
Alors, d'autres questions ?
Bonsoir, merci. Du coup, concernant l'aumônerie des sportifs, il y aura une aumônerie, et notamment une aumônerie, mais d'autres interreligieuses, dans le village olympique. Je suis issu de Saint-Denis, de la paroisse, et nous, ce sera aussi l'opportunité de créer une soirée potentiellement, on va essayer en tout cas, de rassembler d'autres religions, peut-être des hindous, peut-être des musulmans, voilà, du monde entier, et d'autres religions peut-être. Et donc c'est une communion qui est interreligieuse, interculturelle, et autrement, je trouve qu'on a peu parlé des petites victoires. Et justement, parce qu'il y a le corps, mais l'objectif, c'est de nos échecs, qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Et pour moi, la victoire, c'est comment on transforme ce qui nous arrive. Donc, une défaite en finale sur l'ultime finale, comment est-ce qu'on la transforme ? Et c'est, je trouve que c'est là où on touche la vraie victoire, où on vient peut-être toucher, au-delà du corps physique, autre chose. Et aussi mettre en valeur les petites victoires, comme le fait d'être tous ensemble et de partager un repas, c'est une victoire en soi. Et c'est quelque chose qui, dans le cœur d'un sportif, peut être valorisé. Et on connaît tous, en tout cas moi je connaissais dans mes équipes dans lesquelles j'ai joué, des joueurs qui avaient un faible niveau, très faible niveau, mais eux ce qu'ils aimaient c'est d'être avec l'équipe. Et ils mettaient un but dans l'année au handball, là où d'autres en mettaient 5 à 10 par match, mais quand ils mettaient un but, alors là c'était, on en parlait pendant 2 mois, c'était la fête en fait. Et eux ils avaient leur victoire de l'année. Voilà. Et ils ne cherchaient pas à gagner un match, ils cherchaient peu de choses. Par contre, ils avaient cette qualité-là, intérieure, et qui est un peu de l'écologie intérieure, d'avoir valorisé ça. Voilà. Et donc si les plus grands apprennent à valoriser un but ou une tape dans la main, par exemple, donc c'est-à-dire peut-être de prendre le temps en tant que coach d'aller valoriser en fonction des joueurs là où ils ont à aller chercher un plus, parce que toujours aller vers un plus, je pense que pour un joueur, ça peut être un but. Pour un autre, ça peut être des exploits individuels, donc aller titiller son ego. Mais c'est de valoriser les petites victoires. Et je trouve qu'il y a forcément des petites victoires. Et que même si on ne va pas aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu peut-être 100 challengers pour une personne qui est passée, donc en fait, la personne qui va aux JO, c'est un survivant, en quelque sorte. Et comment faire pour se dire, en fait, moi, je peux me rendre utile pour ce survivant aussi. Je peux me mettre à son service et lui faire gagner la victoire finale. Et j'aurais en fait, en quelque sorte, gagné. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est comment permettre de valoriser à chaque chose à valoriser et donc de mettre plus d'intériorité dans tout ça, peut-être.
Est-ce que vous voulez répondre à ça ? Moi, ça m'est arrivé, hein. Une fois, j'ai marqué un but, mais c'était le seul de l'année. Tout le monde en a parlé pendant 10 ans. Allez, est-ce que vous voulez réagir ? Sinon, il y a quelque chose qui est intéressant dans votre question. Et sur laquelle je trouve qu'on pourrait un tout petit peu discuter, c'est la question de l'épisode de la victoire. C'est très ponctuel, hein, une victoire. C'est furtif, c'est éphémère. Comment on fait durer l'énergie positive, la transcendance peut-être qui s'exprime là, dans la durée, Voilà, la victoire, elle est éphémère, mais Dieu, lui, il promet l'éternité. Hein.
Je pense que la victoire n'est pas éphémère, dans le sens qu'on s'en souviendra toujours. Elle est éphémère dans le sens qu'elle elle est arrivée, et c'est fini. Mais on s'en souviendra toujours, ça crée des souvenirs. Moi, je me souviens de chaque match que j'ai gagné. Bon, il n'y en avait pas énormément non plus, mais... non, mais c'est-à-dire que c'est des moments dans ce sens-là, et les souvenirs, c'est éternel. Du coup, est-ce que je vois vraiment la victoire comme éphémère? Non, et comme vous l'avez dit, les victoires, c'est pas seulement que gagner le match. Il y a des matchs qu'on va gagner, on va pas sentir que c'est une victoire. Et c'est une victoire, d'où j'avais raconté la participation au début, la participation à ce tournoi, ou le fait que... une défaite, c'est une victoire sur long terme parce qu'on en apprend des choses. Mais ça, c'est les choses qu'on va s'en souvenir.
Est-ce que vous voulez réagir, Alessandra et Anne-Solène, sur les petites victoires?
Sur les petites victoires, non, sur la façon de faire durer un petit peu cet esprit justement de la victoire. C'est difficile. C'est difficile et parfois, justement, on a l'impression qu'on va surfer sur cet esprit de victoire et puis en fait, non. Le match suivant, c'est plus là. Et c'est ça en même temps la beauté du sport, parce que justement, ça, c'est ces moments de communion, de victoire, où on est bien, on gagne, on est ensemble et qui arrivent, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais en même temps, c'est ce qui est difficile aussi, c'est qu'on sait pas tout, on sait pas comment les faire durer, forcément. Bien sûr, il y a peut-être des façons, mais ça reste toujours une surprise. Et il y a quelque chose, au final, il y a aussi quelque chose de l'inattendu, peut-être de l'inattendu de Dieu qu'on doit accueillir quand c'est là. Et puis, et qu'on ne peut pas nous-mêmes faire durer absolument. Dans une victoire permanente. Parfois, on a l'impression qu'on a les choses en main, et puis finalement, non.
Regardez l'équipe de France de rugby. Tout le monde disait avant la Coupe du Monde que notre équipe, le 15 de France, c'était la meilleure équipe du monde, qu'il n'y avait pas de meilleure équipe, que franchement, c'était le meilleur collectif. Et alors, on entendait ça, mais tout le temps, on n'a pas vraiment gagné, quoi. Vous vouliez réagir, Anne-Solène?
Non, je ne sais pas, pour faire durer la victoire, c'est peut-être déjà d'être dans la gratitude. En tout cas, de reconnaître tout ce qui a fonctionné et effectivement, d'être dans la gratitude de ce qui s'est construit au sein de l'équipe. Et puis peut-être, je ne sais pas, d'emmagasiner des forces pour la suite, dans l'espoir, dans ce que vous disiez lorsqu'elle est... lorsqu'elle est inattendue, d'avoir cette foi aussi dans l'inattendu, y compris lorsqu'on n'est pas une grande équipe.
Par rapport à la gratitude, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la joie qui permet aussi de faire durer peut-être les victoires ou en tout cas les moments où on joue bien. C'est vraiment se rappeler que de jouer avec joie. Enfin, qu'on joue, alors oui, dans la performance pour gagner, mais ne pas oublier vraiment cet esprit peut-être plus ludique du sport et de jouer vraiment toujours avec la joie du jeu. Voilà.
Alors allez-y, bonsoir. Présentez-vous si vous voulez.
Bonsoir, Aude Viotte-Coster en théologie des arts ici. On a commencé ces études en théologie des arts avec une amie artiste qui se posait la question, qui représentait donc des cyclistes en posture de victoire et qui étaient interpellés par ce geste de réflexe chez tous les gagnants d'avoir ce bras étendu en croix, lâchant tout et dans une communion quasi cosmique avec le vent. Enfin voilà, donc c'était impuissant de revenir sur ce... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Et je me mettais aussi en relation avec une expérience personnelle de l'aviron, où, pas en compétition, mais où quand on est tous en train de ramer ensemble, il y a des moments de grâce où on sent vraiment l'aïeulette glisser sur l'eau. Et m'est venue cette expression, pas de nous, mais pas sans nous. Enfin, à la fois avec nous. Donc c'est voilà, cette expérience de petitesse et de qui nous dépasse. Et je reviens une dernière chose aussi. L'année dernière, ou c'était cette année, la dernière thème des Nuits Blanches entre art et sport à Paris. Et donc dans l'église Saint-Ignace au centre Sèvres, enfin à côté du centre Sèvres, il y avait eu une artiste qui était intervenue pour figurer les mains de joueurs de rugby dans ce moment de chandelle, donc en élévation. Et donc un autre artiste était en train de faire le récit de ce commentaire, mais à la place du prêtre, comme une homélie. Donc il y avait toute une réflexion sur ce qui nous soulève.
Ce qui nous soulève, ce qui nous met en mouvement même. Est-ce que vous voulez réagir ?
Juste sous ce que vous disiez, enfin du geste de victoire, enfin et de des mains qui sont levées soit au ciel, soit voilà, c'est la reconnaissance de ce que cet accomplissement qui est donné à tout l'effort qu'on voilà, oui, à tout l'effort fourni nous dépasse et de fait c'est une communion à la fois entre nous, mais aussi ce que ça, Alessandra parlait de voilà, de cette double dimension à la fois horizontale mais qui nous plonge dans la dimension verticale aussi qui nous dépasse. Voilà, ça m'évoquait ça. Merci.
Merci beaucoup. Alors pour le supérieur du centre Sèvres, là, je vous dis, on dit maintenant, on dit la faculté Loyola, hein, c'est très important, la faculté Loyola Paris. En plus, c'est au pluriel en plus. Les facultés Loyola. Une autre question.
Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas un étonnement. Aliette de Berru, je suis professeure de lettres, tout simplement. Rien à voir avec le sport. Mais je m'intéresse en ce moment à la question du corps. C'est le sens de ma présence ce soir. Ce qui m'étonne, moi, beaucoup dans la communication autour du sport en ce moment, c'est une forme de valorisation de l'exploit de ceux qui ont perdu une part de leur capacité initiale. Peut-être qu'on parle moins des JO paralympiques que des Jeux olympiques, mais quand même. Et il me semble que ça dit quelque chose de l'exploit sportif qui peut-être est toujours éminemment personnel. C'est toujours le dépassement de soi par quelqu'un qui a ses propres capacités avec les limites qu'il pensait avoir et qu'il est parvenu peut-être à transcender. Donc un exploit toujours éminemment personnel, mais offert à l'ensemble de ceux qui le contemplent. Et donc je me demandais si dans l'exploit sportif, mais peut-être que là je pense plus à l'exploit hors équipe, peut-être que la réflexion sera différente pour un exploit en équipe. Est-ce que dans l'exploit sportif ou dans la performance sportive, il n'y a pas toujours quelque chose d'un peu transcendant ou parce qu'on reconnaît la performance par rapport aux capacités de quelqu'un, donc c'est à la fois toujours relatif et en même temps absolument admirable. Et donc voilà, je me demandais si vous, en tant que sportif, vous aviez fait l'expérience d'un dépassement de vous-même qui vous fait toucher autre chose. Un peu comme peut-être dans le dépassement de soi intellectuel, on peut toucher quelque chose qui est au-delà de nous. Enfin, moi, c'est plus une réalité que je crois que je connais plus l'effort intellectuel que sportif. Mais donc ça, c'est une question. Est-ce qu'on quand on se dépasse, on touche autre chose? Et je me demandais aussi si dans l'exploit sportif, il y avait pas un plein accomplissement de ses facultés physiques et donc une valorisation du corps qui peut nous intéresser nous en tant que chrétiens, parce qu'on est quand même la religion de l'incarnation. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi à s'intéresser peut-être plus au sport sous cet aspect-là, en ce qu'il manifeste le déploiement du corps dans ses pleines capacités, que ce corps-là soit abîmé ou non, qu'on pense aux Jeux paralympiques ou à toutes les compétitions de gens pleinement valides. Donc je trouve que dans la perspective de la théologie du corps, ça pourrait être intéressant aussi que de se poser la question. Mais bon, tout ça est très vague peut-être.
Alors, voilà. Je me permets juste de vous inviter à écouter la table ronde qui a eu lieu il y a un mois aux facultés Loyola Paris. Et le thème, c'était justement sport et handicap. Et ces questions-là, on a pu les poser. Mais c'est intéressant quand même de dire, est-ce que la perspective est différente quand on vit dans un corps abîmé?
Je pense que l'exploit, vous avez parlé de l'exploit sportif. L'exploit sportif, mais l'exploit en général, c'est aller au-delà de soi. Et ça, c'est pas limité par le fait que notre corps soit abîmé ou pas, si vous voulez dire comme ça. C'est juste faire ce qu'on ne pouvait pas, enfin ce qu'on ne pensait qu'on ne pouvait pas faire. Et du coup, et je pense que ça se voit du côté du sportif en lui-même, qui va ressentir cette fierté parce que bah, je suis allé au-delà. Et je pense que ça se voit aussi de la personne qui va regarder le sport et qui va se rendre compte de cet exploit. Le monsieur devant vous, je vais revenir encore à vous par rapport aux petites victoires. Et comme quoi il y avait cette personne qui avait marqué ce but alors que bah, cette personne n'était pas forcément réputée comme étant la meilleure. Oui, exactement, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié par la personne parce que je ne fais jamais ça. J'ai réussi à le faire, je suis allé au-delà. L'équipe s'en rend compte, cette personne est allée au-delà. Là se trouve la victoire et là se trouve l'exploit sportif, je trouve.
Sur la question de la représentation du corps, justement, est-ce que justement ça ne va pas être quelque chose de très intéressant de regarder les Jeux paralympiques et d'accepter de voir dans le sport autre chose que des corps dans leur dimension la plus superbe, parce que hyper efficace, parce que très 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 fort, très très en capacité de gagner. Et avec les Jeux paralympiques, on va voir certes des corps qui sont capables de gagner, mais des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que abîmés, parce que pas dans la capacité habituelle de voir un corps performer, quoi. Anne Solène. C'est un peu ça votre question.
Oui, de fait, mais je me dis l'exploit, il est le enfin peut-être que les capacités d'un corps ne sont pas, enfin de deux corps ne sont pas les mêmes, mais l'exploit qui surpasse finalement ce qui semblait possible à ce corps relève du même exploit. Et on a peu, enfin il me semble aussi qu'un sportif, il a conscience. Une conscience probablement meilleure même que ceux qui ne le sont pas, des limites de leur corps, et qu'ils ont justement cette capacité-là à finalement mobiliser absolument toutes leurs énergies pour être aux confins de l'impossibilité d'un corps. Enfin, et ça, que ce soit...
Un sportif de haut niveau valide, il flirte avec la limite de son propre corps.
Bah, je crois qu'effectivement, il y a une conscience des limites peut-être plus accrue. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a aussi la croyance que justement ces limites peuvent être repoussées avec plus d'entraînement, avec peut-être du matériel plus adapté, plus performant. Et de nouveau, on est dans cette ambivalence de « oui, je sais où sont mes limites, mais si je m'entraîne plus, si je change de matériel, si je change d'entraîneur, je fais l'entraînement un peu différemment, peut-être que j'arrive encore à quelque chose d'autre, à repousser, et j'ai toujours envie d'aller plus loin. » Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les limites sont quand même là. Et puis, donc ça, je pense que c'est un aspect problématique et à mon avis qui peut se retrouver au niveau de sportifs valides comme de sportifs paralympiques. Je pense que la question de la performance, à certains égards, reste la même. Après, je voulais juste rebondir sur la question de la transcendance, je crois que vous avez parlé, voilà. Alors... juste pour dire qu'il y a un théologien britannique, qui est théologien du sport, qui s'appelle Robert Ellis, qui parle de l'action de la performance, du désir de victoire chez l'être humain. Pour lui, le désir de victoire est quelque chose de profondément anthropologique. Et ce désir de victoire s'exprime, pour lui, chez l'être humain, dans la transcendance, donc la transcendance de soi-même, se dépasser, qui cherche la transcendance avec un grand T, comme il l'appelle. Donc c'est vraiment cette question de chercher la victoire, mais en fait chercher de se dépasser soi-même et d'arriver à une transcendance avec un grand T spirituel. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors dans le sport collectif, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins... Je ne sais pas, l'effort est différent, mais en tout cas, à mes heures perdues, je fais aussi du vélo. Et par exemple... au bout d'une longue journée ou surtout au bout de la montée d'un col par exemple, au bout d'un moment le corps passe disons au deuxième plan on n'est plus tellement, la question n'est plus tellement de savoir si mon corps fonctionne encore ou pas. C'est vraiment une question mentale. Enfin, on passe vraiment dans un état qui est, je ne sais pas comment l'appeler, second, spirituel, transcendant, mais en tout cas où c'est vraiment une question plus, plus mentale, question plus, un état plus méditatif. Et puis, qui permet de continuer, mais le corps passe comme au deuxième plan. J'aurais presque envie, après je repasse la parole, mais j'aurais presque envie de faire un parallèle aussi avec l'expérience du jeûne. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, que ce soit le carême ou autre, dans le sens où, là où je fais le lien, c'est que dans le jeûne, finalement, la question du corps passe au deuxième plan. C'est pas tellement le fait de jeûner en tant que tel qui est intéressant, en tout cas dans une démarche spirituelle, mais c'est l'état dans lequel ça nous met, et l'état d'ouverture en fait qui nous est conféré par le fait de jeûner. Et puis donc dans une démarche profondément spirituelle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se rejoint un petit peu dans cette question de la transcendance sportive dans le jeu.
Alors, on a une question ici.
Bonsoir et merci pour ces échanges. Père Baptiste Javaloyes, vicaire dans une petite paroisse de Paris, dans le réseau Holy Games. C'est justement sur la transcendance que je souhaitais intervenir, poser une question. Nous avons évoqué par bien des aspects, par différents exemples, différents sports, des choses qui nous permettent de toucher quelque chose de la communion. Ma question voudrait interroger précisément ce que nous appelons communion en régime chrétien, et j'ose dire même catholique, qui est quelque chose d'extraordinaire, d'indéfinissable, en même temps de très concret. Nous devenons tous un seul corps. Je mesure avec des jeunes de quartier plutôt défavorisé, on peut le dire, je pense, dans l'endroit où nous nous trouvons, en bordure du périphérique, que ce sont des jeunes qui, précisément, ont peu d'expériences concrètes de communion. On voit, pas pour faire un discours de fin du monde, mais avec beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de téléphones portables, d'écrans, etc., très peu de liens dans le réel. Une communication qui passe avec les autres par beaucoup de choses finalement virtuelles. Et nous mesurons qu'il est difficile de leur montrer la puissance de la communion telle que Dieu la veut pour nous. Il est difficile de les plonger dans une célébration, dans une église. Il est difficile de leur faire goûter quelque chose de ce projet d'être un seul corps. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a la puissance d'un roman, d'une histoire, des lettres. Il y a la puissance de l'art. Mais est-ce que nous touchons pas ce soir dans cette conférence quelque chose de la spécificité du sport qui permet justement, par son côté concret, par la sueur, par le vivre ensemble en équipe, par connaître aussi bien la défaite que la victoire, de comprendre que cela engage notre corps, notre volonté, notre mémoire, toutes ces puissances? Et est-ce que justement le sport ne serait pas en fait l'une des meilleures propédeutiques à la communion spirituelle? Voilà. J'ose interroger par cette question peut-être les choses un petit peu différemment, non pas le partir du sport, mais viser l'idéal, pour résumer mon propos, ce sommet de la communion tel que nous le vivons en régime chrétien, qui est à la fois magnifique et en même temps qui peut sembler inatteignable. Est-ce que justement le sport n'est pas aussi un moyen de le creuser?
Merci. Allez, Anne-Solène, on y va. Ça, on va y arriver. Super question en tout cas.
Oui. Mais je crois que c'est vraiment juste, enfin, que vous le dites très bien, que de fait, à travers cette expérience-là, qui est à la fois physique, sensorielle, mentale, comme le disait Alessandra, s'expérimente quelque chose d'un faire ensemble, d'un penser ensemble, d'un célébrer ensemble, d'un se réjouir ensemble, qui de fait les introduit à la communion à laquelle nous voulons les introduire, enfin, il y a une communion qui les dépasse, je crois que vous avez raison.
Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans le sport, dans la spécificité du sport justement, où on est dans l'effort du corps, dans l'effort mental, qui permet une certaine mise à nu et donc on n'est plus dans les apparences, quoi. On est dans son identité propre telle qu'elle est. Authentique, j'aurais envie de dire, et soi-même comme les autres autour de nous. Et là, à ce moment-là, peut-être se joue quelque chose de plus profond, de spirituel, où il y a peut-être une ouverture vers un mode de relation, justement plus spirituel, qui peut se créer dans le fait d'être mise à nu dans son identité profonde.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci vraiment beaucoup à tous les trois, hein, Georges, Alessandra et Anne-Solène, d'avoir été avec nous ce soir pour cette soirée. On peut les applaudir parce qu'ils ont été brillants. Et merci beaucoup à tous d'avoir été là, un peu plus nombreux au fur et à mesure des minutes que dans la soirée. Donc, merci à tous d'avoir été là. Monseigneur Marcet, est-ce que vous voulez peut-être conclure cette soirée, nous inviter à la prochaine et ultime soirée de ces colloques Holy Games?
Merci. Alors, ça aura lieu cette fois-ci sur le plateau de Saclay, au centre Teilhard de Chardin, le mercredi 5 juin, probablement de 19h30 à 21h aussi, sur la question du sport, de la technologie, du numérique, de la science, jusqu'où tout cela, jusqu'où l'utiliser au profit du sportif et quels sont les enjeux éthiques et anthropologiques. Il y aura un toubib, un médecin du sport, et un praticien entraîneur de haut niveau d'un sportif. 5 juin.
5 juin. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Excellente soirée. Sachez que vous pouvez retrouver cette soirée, évidemment, en podcast, hein, sur le site rcf.fr. Voilà, je vous invite à retrouver tous les interventions de nos invités et puis aussi toutes les questions que vous avez posées, les réponses que vous avez eues à vos questions. Merci à tous et bonne soirée.